Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec Un jour, fille. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Et bonjour Mathis.
Bonjour, bonjour.
Je vais vous parler d'un film, c'est Un jour, fille. Moi, je l'ai découvert au Festival international du film de fiction historique en octobre dernier. Vous imaginez ? Ça fait un petit bout de temps. Et ce film m'était resté en mémoire parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment très fluide, très intéressant et surtout historique. Et ça c'était vraiment incroyable. C'est réalisé et scénarisé par Jean-Claude Monod. Et je vous propose d'écouter le synopsis.
Alors, on se retrouve au XVIIIe siècle. Anne, grande fille, doit changer d'habit en raison de son attirance pour les femmes. Devenu homme, il se marie et vit une grande histoire d'amour avec sa nouvelle épouse jusqu'à ce que son passé le rattrape. L'histoire vraie et bouleversante d'Anne Grandjean née intersexe et de son procès retentissant qui interroge encore aujourd'hui toutes nos certitudes.
Ouais, vraiment bouleversant cette histoire et avec une actrice, une pépite, Marie Toscane, son premier long métrage. Elle a fait deux courts métrages avant et là, premier long métrage et elle est vraiment bluffante dans son interprétation d'Anne et Jean-Baptiste Grandjean. Oui, parce que Anne devient Jean-Baptiste. Et je vous propose qu'on en parle avec le réalisateur qu'on a pu rencontrer au festival. Et franchement, eh bien, il ne pèse pas ses mots sur ses actrices.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
On est au Festival international du film de fiction historique. Et vous venez accompagner votre film.
Exactement.
Un jour, fille.
Oui.
Avec un sujet très original, historique.
Oui.
Tiré de l'histoire vraie de Anne Grandjean.
Tout à fait.
Par rapport au rapport du maître, de l'avocat qui l'avait défendu, Maître Vermeil, c'est ça ?
Alors oui, effectivement, c'est une histoire que j'ai trouvée en fait dans le cours d'un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire des rapports aux normes et aux anormaux, entre guillemets, puisque c'est le sujet d'un de ses cours au Collège de France, c'est Michel Foucault, qui a donc s'est intéressé à la façon dont la justice a traité certains cas qui ont été jugés problématiques ou qui ont fait scandale à l'époque. Et donc je suis tombé sur cette histoire d'Anne Grandjean et Foucault mentionnait le mémoire de l'avocat rédigé pour défendre cette personne, Maître Vermeil. Alors à l'époque je l'ai trouvé à la Bibliothèque nationale, enfin il était numérisé, maintenant je crois qu'on le trouve assez facilement, il est sur internet et il y a un certain nombre d'articles ou d'études dessus, maintenant c'est redevenu un sujet, voilà. Mais moi je suis vraiment parti effectivement du mémoire de l'avocat qui raconte la vie d'Anne Grandjean, que je peux résumer mais on va peut-être dire de quoi il s'agit.
Intersexe, voilà. Fille, alors oui. Avec les deux sexes, mais déclarée fille à la naissance par ses parents, sous la demande de l'autorité religieuse qui a dit
alors à la naissance on ne sait pas trop, et à la naissance donc à l'époque on disait plutôt hermaphrodite, donc
c'est
elle avait des caractères des deux sexes comme dit l'avocat, et comme ça arrive encore pour un certain nombre de gens, mais à l'époque donc ils ont décidé qu'elle était plutôt fille à la naissance. Et c'est lorsqu'elle est arrivée à l'adolescence où elle était visiblement attirée par les filles, et c'est ce qu'elle a dit
à son confesseur. Oui,
qu'elle a dit à son
prêtre.
Quand
elle surprend une scène dans la grange.
Exactement,
et
là.
En fait, elle est plus à regarder la fille.
Voilà, elle s'aperçoit qu'elle est attirée par une servante, etc. Et comme à l'époque, on se confesse beaucoup, elle le confesse à son confesseur, au prêtre, qui effectivement, alors ça c'est ce qui s'est passé, a conseillé à l'époque qu'elle change d'habit, puisqu'il savait lui qu'elle était comme ça, qu'elle avait des caractères des deux sexes. Et donc, elle a, c'est le prêtre lui-même, ce qui peut paraître surprenant, qui,
qui
comme elle était
fou,
attirée
oui.
par les femmes, s'est dit peut-être... Et je pense qu'il partait plutôt d'ailleurs d'un bon sentiment. Il s'est dit que la vie à l'époque serait peut-être plus simple pour elle si
fait.
Elle prenait des habits d'homme. Et ça s'est fait de manière tout à fait officielle, finalement. Ils ont même été le déclarer aux autorités civiles. En fait, ça se passait à Grenoble. Moi, j'ai resitué ça plutôt dans la campagne parce que je trouvais que... espèce de naissance comme ça du désir dans l'adolescence et tout, toute la première époque du film, je préférais que ça se passe un peu dans la campagne, je voyais mieux ça. Bon, en plus c'était un peu plus simple.
Oui, j'imagine.
En termes de tournage historique, reconstituer Toulouse du 18e siècle, c'est un peu plus compliqué que de situer ça dans des champs, une ferme, etc. Et puis voilà, donc, mais bon, je sais pas dans quelle mesure il faut raconter l'histoire, mais c'est vrai que on peut penser que les choses ont été un peu compliquées, qu'elle est partie, qui est donc devenue Jean-Baptiste. Il est parti et il a essayé de refaire sa vie ou de faire sa vie dans une autre ville, en l'occurrence Lyon, ça on le sait. Il s'est installé comme tailleur.
Comme
c'est d'ailleurs
apprenti,
amusant parce que je pense qu'il avait appris à coudre comme jeune fille et qu'il a utilisé ça ensuite,
pour devenir tailleur. Ouais, tout à fait.
Et puis, son passé l'a rattrapé quand même, c'est-à-dire que... le mariage...
Mais il était heureux.
J'ai l'impression, bon ça, il faut
voilà.
l'imaginer. Hein,
mais c'est vrai que dans le film, ce qui est assez fou, alors, il ne faut pas tourner la tête. Parce qu'il y a un moment où on se retrouve, il est jeune, il rencontre justement, il est apprenti.
Sa femme,
il y a une petite musique qui suit. Hop, on se retrouve au mariage, il y a une belle ellipse.
Oui, il y a une ellipse, c'est vrai.
Et donc, il ne faut pas tourner la tête.
C'est vrai, ah oui, si on s'endort à ce moment-là, ça ne va pas.
C'est fini.
Il manque un épisode crucial. Et c'est vrai que c'est bon, c'est peut-être un peu étrange, et même heureusement qu'on a fait ces plans, parce qu'au départ, on les a fait vraiment à la toute fin du tournage, et c'est comme si la vie de ce couple... Alors c'est vrai que moi j'étais peut-être un peu aimanté par la fin du film, qui est le procès aussi, qui m'intéressait, et j'avais plus, et c'était plus difficile, et d'ailleurs, en fait, le procès, il est très documenté, évidemment, on a beaucoup de choses. La vie de ce couple heureux, sans histoire.
Le reste, c'est fictionnel. C'est
vraiment,
qui vous êtes un peu...
Alors voilà, ça devient quelques images. Bon, et puis tout ce qui est inventé, mais ça, je le redirai sûrement. Mais c'est la période entre son enfance, entre guillemets, enfin son adolescence dans la famille et son installation à Lyon, c'est-à-dire un peu le voyage, tout le moment. Où moi, je voyais ça un peu comme ces romans de formation, les romans du 18e siècle, comme ça, les gens partent. Ou les films aussi, il y a beaucoup de films sur le 18e siècle.
Sur son chemin, elle rencontre une troupe de théâtre, dont un qui sent tout de suite qu'il y a quelque chose chez elle, alors chez lui, puisque à ce moment-là, elle est Jean-Baptiste, il est Jean-Baptiste, j'arrive pas,
il y elle.
et c'est vrai qu'il sent, il voit quelque chose, il se dit, il y a... Et du coup, il se fait draguer, carrément.
Oui, c'est ça, on ne sait pas trop, en fait. C'était le problème. Le problème de cette séquence où ils se rencontrent. Et ni pour moi, ni pour le comédien, Thomas Simeka, c'était très clair ce qui se passait là. C'est-à-dire, est-ce que...
Il y avait un trouble, en fait.
Il y a un trouble, voilà. Moi,
on
je pense qu'il y a un trouble.
Quand
et
danse,
il le
exemple.
Trouve sympathique aussi.
Oui.
C'est quelqu'un, c'est un jeune homme, un peu, on ne sait pas trop, mais qui est un peu perdu. Lui, il est plutôt comme ça, c'est chaleureux. Il le prenait sous son aile. C'était aussi
un sens
entre
protecteur.
Frère aîné et quelque chose d'un peu plus trouble. Mais après, Thomas Simegal a joué un peu du côté drague, peut-être plus,
un
c'est son
peu.
Tempérament. Mais bon, c'était l'idée aussi, c'est que ce soit un peu trouble. Mais aussi, l'idée, évidemment, c'était que ce soit un milieu... pour qui le fait de changer d'habit, de costume, de genre et tout ça est quelque chose qui n'est pas du tout problématique.
C'est pas gênant.
Et un milieu un petit peu
ouvert. Du théâtre, du spectacle.
Ouvert, alors que, bon, évidemment, un peu comme dans tous les romans et les choses, il y a les alliés et les ennemis. Enfin, on rencontre des gens qui vont être plus ou moins accueillants.
Oui, et puis il y a cette fameuse fille qui va proposer une chambre en haut et qui a une idée derrière la tête.
Alors ça, en fait, c'est vrai que c'est dans le récit de l'avocat, dans le mémoire de l'avocat, il est dit que Jean-Baptiste Grandjean, donc, a été sans doute dénoncé par une femme qu'il avait éconduit, dont il n'avait pas voulu. Ou bien il a eu une histoire, il a quitté, c'est pas très clair.
Il y a une jalousie.
En tout cas, il y a une histoire de jalousie assez clairement. Effectivement, il y a une histoire de jalousie. Alors après, c'était un peu compliqué de se dire est-ce que cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle savait ? Puisqu'après, quand même, elle le dénonce. Donc,
ils ont eu une. En fait, c'est elle qui va semer le trouble chez Mathilde.
Oui, déjà.
Qui va aller se confesser, elle aussi.
Oui, alors ça, parfois, les gens pensent que c'est peut-être le curé. Mais normalement, le curé est tenu au secret de la confession. Donc, c'est sans doute pas lui qui a dénoncé.
À cette époque, on ne disait pas. Après, il y avait beaucoup de commérages.
Après, voilà. Il y a un moment où il y a la rumeur qui part dans la ville. Et ça, clairement, il y a un moment où une rumeur tourne autour du couple. Et c'est presque pour arrêter la rumeur qu'elle est arrêtée par les autorités judiciaires.
Mathilde lui dit. On s'en va.
Voilà, et lui, elle prend peur, elle décide de partir, mais lui, comme il est déjà parti village,
elle n'a pas envie.
Je pense que c'est effectivement, pour moi, c'était un personnage qui avait plutôt essayé de construire un peu sa vie, un peu vivant heureux, vivant caché. Et puis, il a été rattrapé par ses rumeurs, par ses histoires de son passé.
Je trouve que la scène d'intimité, et il y a beaucoup de poésie. Il y a beaucoup de finesse.
La nuit de noces.
Oui, la nuit de noces.
Ouais, il y a beaucoup de finesse. Ça, c'était compliqué aussi.
Et c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si elle va les conduire ou épouser sa cause.
Sa propre femme ?
Oui, à ce moment-là.
Oui. Alors ça, moi, j'ai un vieux fond. Je viens d'une famille protestante et tout ça. J'avais tendance à faire des ellipses pour tout ça. Mais c'était pas possible pour ce film. Il y a un moment, il fallait quand même. Et c'est drôle parce que c'est une amie scénariste, Alexia Strezi, qui m'a dit : « Mais Jean-Claude, tu ne peux pas éluder la nuit de noces. C'est pas possible. »
Maintenant.
Et le moment où il va se montrer à sa femme, comment elle. Et donc, effectivement, c'est un peu sur un fil. Finalement, sa femme est beaucoup plus à l'aise avec. Ça, j'ai aussi pas mal parlé avec des personnes intersexes et qui, d'ailleurs, parfois trouvaient qu'il y avait trop de. Mais bon, c'est aussi une chose à quoi ils sont exposés, c'est qu'il y a une espèce de curiosité qui, pour eux, est malsaine sur leur anatomie, etc. Et donc, c'est souvent des personnes qui ont une difficulté, en fait, à se montrer, à montrer leur corps. Et donc, c'est un peu ce qu'aussi, dans cette scène, j'avais voulu montrer. Déjà, elle cache un peu qu'elle a une sorte de poitrine, en fait. Et donc, elle doit le montrer à ce moment-là.
Elle bande.
Donc, elle se dévoile. Et elle est. Et effectivement, on voulait créer cette intimité, quand même.
Alors, on peut parler de l'actrice principale.
Mais oui, qui n'est pas loin.
Qui n'est pas très, très loin, d'ailleurs. Ah, hein, voilà. On l'entend, Marie Toscane, de Plantier.
Oui.
Quelle trouvaille.
Oui, ben, j'étais très content de ça. C'était très, très compliqué, évidemment, pour ce film, c'est de trouver quelqu'un. Et j'ai vu des dizaines de personnes, de tout genre, d'ailleurs, parce que moi, je ne savais pas, a priori, si je voulais que ce soit un acteur. Donc, j'ai vu des garçons, des filles, des gens transgenres, une ou deux personnes intersexes, qui n'étaient pas des acteurs professionnels, mais deux personnes intersexes. Je crois qu'il y a un acteur intersexe pour l'instant déclaré en France, mais qui est plutôt asiatique, donc ça n'allait pas. Et à un moment, d'ailleurs, j'étais un peu fixé sur un jeune acteur belge qui est très très bon, qui a fait un certain nombre de choses. Et puis à un moment, il m'a dit : « Mais tu sais, Jean-Claude, moi je ne me sens pas de faire la partie féminine. »
Féminine, oui.
J'ai dit : « Mais non, mais c'est absurde. Enfin, je ne vais pas prendre deux acteurs pour ce rôle. »
Très compliqué.
Ça se passe sur un certain temps. Et puis, donc, on était un peu désespérés, parce qu'à un moment, on a quasiment renoncé au tournage parce qu'on n'avait plus d'acteurs. Et une amie qui donne des cours de théâtre m'a dit : « Mais tu sais, à ce cours où aller à ce moment-là, je crois qu'elle n'y va plus, mais Marie, qui s'appelle l'Atelier Blanche Salon à Paris, il y a quelqu'un d'intéressant, ça. » Et puis moi, bon, elle m'envoyait des photos, mais je me dis : « Bon, elle est quand même assez féminine, et tout ça. » Et puis en la rencontrant, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, presque d'un peu neutre, en fait, dans la voix, dans. Elle est quelque chose de. Qui n'est pas, qui est pas vraiment androgyne, mais qui est assez trouble aussi, comme
oui,
ça,
c'est quelque chose d'assez trouble. Voilà.
Et moi, j'ai pas voulu à toute force qu'on se dise c'est un garçon quand elle est en Jean-Baptiste ou c'est voilà. Mais qui est bon après avec ses costumes de l'époque, il y a tout. Alors c'est une époque, ce qui n'était pas facile pour nous, c'est qu'en fait. Au 19e siècle, elle aurait mis une moustache et puis c'était fini pour jouer de du changement de genre.
Excusez-moi, Jean-Claude. Oui. Yann. Oui. S'il vous plaît.
Excusez-moi. C'est bien. Donc il y a des moments où la différence de genre est très facile à figurer parce qu'il y a des signes. Alors qu'au 18e siècle, les hommes, ils ont les cheveux longs, ils n'ont pas de barbe, ils n'ont pas de moustache.
Oui.
Mais ils ont des costumes assez particuliers, parfois des perruques, parfois des coups. Et donc c'était amusant aussi de ce point de vue-là, de travailler ces aspects. Puis au début, elle est quand même un petit peu dans ses tabliers. Voilà.
Ah bah oui, ouais, elle est en femme. Sort du couvent.
Voilà, elle est jeune.
Ce truc-là. Ouais. Et puis elle rencontre Mathilde,
oui.
Qui est jouée par Iris Bry.
Alors Iris Bry, très vite, j'ai eu envie de lui demander. J'avais vu dans le film Les Gardiennes avec Isabelle, avec Nathalie Baye et sa fille d'ailleurs, et Iris Bry, c'est quelqu'un qui a un côté un peu intemporel, comme ça, elle a un physique de porcelaine, comme ça, et une espèce de douceur qui je trouvais très bien avec ce personnage tel que je l'imaginais, et je trouve le duo est très beau, les deux.
Et le procès avec Thibaut de Montalembert et François Berléand.
Voilà.
Thibaut de Montalembert. Alors, François Berléand, avant, juge, qui dit que le mariage, tout plein de choses, mais ça, on laissera les gens découvrir.
Ouais.
Et Thibaut de Montalembert qui arrive et qui va la défendre.
Qui est son avocat en appel. Oui, alors ça, mon idée, c'était que le rôle principal, ce soit quelqu'un d'inconnu jusqu'à présent, une découverte. Et qu'en revanche, les rôles d'autorité soient plutôt joués par des acteurs connus.
Elles sont entourées, en fait. C'est
oui,
ça.
Et je trouve ça amusant pour le spectateur. Donc, il y a ce personnage un peu qui tombe de nulle part, donc on a un peu de mal à identifier, etc. Et en revanche, sa mère est quand même jouée par Isilde Lebesco.
Oui.
Le père Yannick Régnier, Et ensuite, le procès, le prêtre, c'est André Marcon, qui est un acteur magnifique, je trouve. Et ensuite, le procès, effectivement, François Berléand, c'est un peu un ami, donc il m'a fait l'amitié de bien vouloir jouer le juge. Et Thibaut de Montalembert qui fait l'avocat. Donc c'est vrai que c'était des personnalités déjà assez impressionnantes, charismatiques, etc. Puis le procès, c'est l'occasion aussi de cet affrontement des points de vue, des représentations de ce qu'est un couple, un mariage, l'amour, etc. C'est un peu le choc. Et on est à une époque très intéressante pour ça, le 18e siècle, parce qu'il y a l'église, la religion est très très forte. Et oui, en même temps, les lumières. Donc l'avocat, on voit, c'est clairement quelqu'un qui se réfère aux lumières, à une nouvelle façon de se dire, écoutez, ce qui est important, c'est plutôt ce que veulent les individus. C'est pas forcément les sacres. Le mariage, c'est pas forcément le sacrement. C'est parce qu'elle est condamnée quand même comme profanateur du mariage, ce qui explique
la
dureté de la sentence. Et lui, il dit, le mariage, c'est juste deux volontés, deux personnes qui... Donc, et c'est un débat qui n'a pas cessé, en fait. Et c'est ça que je trouvais très frappant et intéressant, c'est que c'est condamné, en fait, comme une espèce de proto-mariage homosexuel. Et ces débats, moi, j'ai un petit peu forcé la note, mais pas tellement, là, parce qu'on a le relevé des débats, vraiment, là, on a tout. Et les arguments, il y a des choses qui n'ont pas tellement bougé depuis deux siècles.
Malheureusement, on n'a pas beaucoup évolué sur certaines choses.
Il y a un couple, doit être ceci, etc. Les échos entre le présent. Alors c'est vrai que c'est une histoire qui a d'autres coordonnées historiques, parce qu'il y a l'Église qui est très forte, etc. Dans certains pays, la religion reste extrêmement forte et peut avoir comme ça aussi quand même un effet assez important sur la condamnation de certaines sexualités, etc. Je pense que tout ça reste... Mais ouais, j'étais impressionné de lire ce débat comme quelque chose qui est presque structurel. Quoi.
On sent Mathilde à la fin du procès,
ouais.
Quand tout est fini. Alors là aussi, il y a une ellipse, parce qu'on ne voit pas la déclaration,
la deuxième sentence, c'est vrai. Ouais.
C'est Thibaut de Montalembert qui l'explique.
Qui l'explique.
Et on sent Mathilde en même temps soulagée et attristée.
Oui, oui.
On la sent soulagée par rapport à sa foi, par rapport à tout
d'accord.
ce qu'on lui
a... Ah, c'est intéressant, mais je n'avais pas vu comme
apporté.
Ça. Mais...
Enfin, c'est ce que j'ai ressenti.
D'accord, d'accord.
J'en ai parlé avec mon collègue.
Oui, d'accord.
Et on la sent aussi attristée parce qu'elle a vécu des années avec la personne, on ne sait pas combien de temps.
Oui, oui, quelques années. Ouais.
C'est ce que vous dites.
Ouais. Ouais.
Et on la sent perdue parce
oui.
que voilà,
elle
va vivre sans lui.
Ouais.
Et peut-être qu'on va la remarier ou peut-être qu'on va la mettre de côté en disant blasphème à toi.
Oui,
tout
je ne sais pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas.
C'est pour ça. C'est,
on ne sait pas en fait. Alors Foucault, justement, il a écrit un très joli texte qui s'appelle La vie des hommes infâmes. Alors infâme, c'est au sens. C'est pas les gens qui ont une gloire, les grands de ce monde, etc. C'est ces vies qu'on connaît simplement parce qu'elles étaient un peu hors normes et qu'on les a documentées surtout au moment de procès ou les médecins. Et après, en fait, une fois qu'elles sont plus sous le feu de ces pouvoirs, on ne sait pas ce qu'ils deviennent.
Mais non.
Donc, qu'est devenu Jean-Baptiste, redevenu femme, Jean-Baptiste, qu'est devenu son épouse ? Il y a des choses que je n'ai pas mis parce que c'était après, mais il y a eu des... Quand même, l'opinion publique s'est intéressée à cette histoire et il y a eu, par exemple, un poème sur eux.
Ah.
Un poème un peu larmoyant.
C'est vrai ?
Oui, oui.
De qui ?
Mais on ne sait pas, une sorte de poème anonyme qui a été diffusé comme ça. C'était peut-être une chanson même. Donc, et là, les gens essayaient d'imaginer un peu ce qu'ils étaient devenus, mais en fait, on n'en sait rien. Et bon, le film, de toute façon, ne pousse pas tellement au-delà de cette période, mais c'est là où, effectivement, on en est réduit à imaginer.
Oui, et puis on imagine cette fin, on la voit d'une certaine manière. Et moi, c'est vrai, quand je vois la fin et je vois le truc, je fais « Mais non, moi je veux voir, je veux continuer
en fait. »
J'ai trouvé que c'était un peu inachevé, ouvert et j'ai envie de la voir
monter sur scène. C'était comme moi quand j'avais lu le livre de la jungle quand j'étais petit, hein, j'avais pas envie que ça s'arrête.
C'est bon signe.
Si on n'a
pas envie que ça s'arrête.
Oui, la fin est peut-être un peu abrupte.
J'avais envie qu'elle monte sur scène, que les gens soient là,
d'accord,
et qu'elle ait ce...
Oui, bah, c'était un peu l'idée. Là,
en
c'était
disant,
que, oui.
Je suis sur scène,
d'accord,
je joue un rôle,
ouais,
et je peux aussi bien être une femme qu'un homme.
Peut-être, voilà. Mais vous voyez, c'est bien, vous l'avez développé vous-même, en fait, vous avez comblé le manque d'une fin. Et en tout cas, oui, il y avait cette idée... Bon, en fait, c'est la première fois qu'on la voit vraiment en femme.
Mais oui.
On l'a vu en très jeune fille. Et là, on la voit en femme. Et c'était un petit peu une allusion à cette idée que... il y a un peu cette théorie à Judith Butler qui dit le genre comme performance. C'est-à-dire quand on joue ou même on surjoue éventuellement le masculin ou le féminin. Et là, je trouve que c'est un peu cette idée de... Elle est très belle, ça, avec une coiffure énorme, ça, et puis on...
Et elle va
monter sur scène, c'est-à-dire elle va jouer peut-être la femme, ou elle va jouer, et voilà, bon, ça, c'était un peu
Le bas est plus d'œil. Masculin.
Oui,
vous
elle est en fait dans une tenue...
C'est
vrai qu'en fait, c'était un peu un clin d'œil qu'on faisait avec le costumier, je leur avais dit, mais est-ce que tu peux pas l'habiller un peu comme David Bowie ou Mylène Farmer ? Comme
c'est
des gens
qui
ont beaucoup joué aussi avec le genre.
Sans contrefaçon, je suis un garçon. C'est vrai qu'elle a cet écheton crure et tout.
Ses costumes.
Et avec ce pantalon.
Voilà. Puis c'est un moment où j'ai dit, bon là, on peut un peu lâcher du lest par rapport au côté historique et on entre un peu, c'est comme si c'était un peu notre contemporaine quand même. Et donc, mais effectivement, elle est dans un costume où ça joue avec, et où elle s'en empare, on a l'impression, de cette dimension un petit peu... des deux genres.
En tout cas, merci beaucoup pour ce film.
Ben, merci à vous. Merci.
C'est un réel plaisir de le découvrir.
Bon, ben, merci beaucoup. J'en suis heureux.
Vous savez quand ça va sortir?
Oui, ça sort le 1er ou le 8 mai. On ne sait pas.
Ah oui.
Voilà. Deux dates historiques, d'ailleurs.
Oui, voilà. En effet, oui, c'est vrai.
Mais oui, voilà. C'est, on l'a su il y a quelques jours. Donc, faut attendre un peu.
Merci beaucoup
à vous. Merci.
Pour ce moment et pour cette discussion autour de ce film.
Avec plaisir.
Dont on pourrait continuer à parler encore, puisqu'il y a des scènes
c'est
très
assez
fortes.
Riche, voilà. Ouais, c'est une histoire étonnante, quand même. Ouais.
Ah, franchement, c'est que du bonheur d'avoir eu cette interview avec lui, parce qu'on sent vraiment son amour de l'histoire, son envie de montrer justement... cette part de l'histoire qu'on ne connaissait pas du tout, ce personnage d'Anne et Jean-Baptiste Grandjean, et surtout de parler avec lui un peu des tenants, des aboutissants du film, ce procès mémorable avec un casting de feu de Dieu. Alors, on a parlé de Marie Toscane, mais il y a aussi Iris Brie qui joue son épouse, celle qui va tomber amoureuse d'Anne ou de Jean-Baptiste. Il y a Thomas Siméca, Thibaut de Montalembert, Sarah Le Picard, François Berléand, André Marcon et Yannick Renier. Je vous assure, c'est un sacré casting et ça fonctionne du feu de Dieu. Je vous invite vraiment à aller découvrir Un jour fille au cinéma. Il sort ce mercredi 8 mai. Ne ratez pas cette pépite.
Au village, certains disent que je suis un drôle d'animal, à la fois garçon et fille. J'ai vu Sophie avec Antoine. C'est pas à la place de Sophie que j'aurais aimé être. C'est à la place d'Antoine.
Mais si ses sentiments la poussent vers les filles, si elle est aussi garçon que fille, il serait plus convenable qu'elle change d'habit.
Ce sera un grand bouleversement pour elle, pour nous tous.
Comment m'appellera-t-on maintenant ?
Jean-Baptiste.
Rendez-moi la fille qu'elle était.
Tu as vu, je ne suis pas comme les autres hommes.
Grandjean est-il, d'après votre avis, un hermaphrodite à dominante homme ou femme?
Je ferai casser ce jugement. C'est une honte pour notre âge éclairé.
Mais la justice a assuré le respect de nos institutions cardinales et à punir les abominations.
Mais elle n'a pas à produire d'abominations.
Silence!
C'était Chaud Devant Ciné avec Un jour fille. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce film. Il est au cinéma à partir de ce mercredi 8 mai. Ne ratez pas vraiment cette pépite parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et l'interprétation de Marie Toscane et Iris Brie sont bluffantes. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees.